Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ce sont des informations cruciales qu'apportent ce matin l'Institut Pasteur et le CHU de Strasbourg sur la Covid-19. Oui, nous sommes protégés après avoir contracté la maladie. Résultat d'une étude menée sur des soignants immunisés contre une nouvelle infection. Explication dès le début de ce journal.
Rassuré par le reflux de l'épidémie de coronavirus en France, l'État s'attelle davantage aux conséquences économiques de la crise. Emmanuel Macron détaille en personne son plan de relance pour le secteur automobile.
L'État qui multiplie les plans de soutien économique au secteur donc de l'automobile, de la culture, du tourisme, mais avec quelle cohérence d'ensemble? C'est la question que posera Frédéric Seyss dans son billet politique juste après ce journal.
Et puis avec la reprise de l'activité économique, les entreprises devront payer 15% du chômage partiel à partir de lundi prochain. L'annonce du ministère du Travail inquiète des PME qui s'estiment trop fragiles pour assumer ce coût.
L'Amérique latine est en passe de devenir le nouvel épicentre mondial de la pandémie de Covid avec plus de 500 000 cas diagnostiqués. Le Brésil est le pays le plus touché, suivi du Pérou. Nous serons à Lima dans ce journal. Et l'on en apprend un peu plus ce matin sur la Covid-19. Chercheurs et citoyens se demandaient depuis des mois si les malades atteints d'une forme légère de Covid-19 étaient protégés contre une nouvelle infection. La réponse est positive, ils sont immunisés et protégés pendant au moins plusieurs semaines, selon les résultats d'une étude menée par l'Institut Pasteur et le CHU de Strasbourg, qui ont pratiqué des tests sur des personnels soignants de deux hôpitaux strasbourgeois atteints par le coronavirus. Étude qu'a pu se procurer Daniel Messager, notre consoeur de France Inter.
160 soignants de deux hôpitaux de Strasbourg atteints par le coronavirus ont été testés. Cela avait développé des formes légères, sans aucune hospitalisation. Un mois après la maladie, la présence des anticorps était incontestable. Le professeur Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur a conduit cette étude.
On a retrouvé des anticorps chez la quasi-totalité d'entre eux, 159 sur 160. On recherchait aussi des anticorps neutralisants dont on sait qu'ils sont protecteurs contre, par exemple, une réinfection. Et là, on en trouvait chez 98% des personnes qui avaient été infectées par le SARS-CoV-2. Les résultats de ces études, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Le fait d'avoir des anticorps protecteurs un mois après le début des signes laisse entendre que très vraisemblablement, ils sont protégés contre une réinfection s'ils étaient à nouveau exposés au coronavirus.
Il n'y a pas de doute sur la capacité de protection de ces anticorps qui a été testée en laboratoire. Combien de temps va durer cette protection pour les personnes qui ont développé une forme légère? De quelques semaines à quelques mois, disent les chercheurs. Il faudra ensuite retester. Une bonne réponse, même si elle ne s'applique qu'à peu de personnes, puisqu'on estime à 10% le taux de contamination dans les zones rouges, Grand Est, Île-de-France, seulement 2% dans l'Ouest.
Et le nombre de malades hospitalisés en réanimation a continué à baisser hier en France avec 1609 patients recensés, 46 de moins en 24 heures, selon les chiffres de la Direction Générale de la Santé. 90 nouveaux décès ont par ailleurs été enregistrés en 24 heures dans les hôpitaux. L'épidémie qui pèse lourd par ailleurs sur l'économie française, le gouverneur de la Banque de France estime que la période de déconfinement va amputer la croissance hexagonale d'au moins 3 points de PIB cette année. Ils s'ajouteront aux 6 points déjà perdu lors du confinement. Et pour relancer un secteur autant crucial pour l'économie, avec 900 000 emplois directs et indirects, mais aussi symboliques, avec des fleurons en danger comme Renault, Emmanuel Macron va présenter aujourd'hui un plan de relance pour l'automobile, une filière sinistrée. Les ventes ont baissé de 89% le mois dernier. Près de 50 000 emplois seraient aujourd'hui menacés. Autant dire, Pierre Neveu, que la parole du chef de l'État est très attendue.
Si Emmanuel Macron porte ce dossier, c'est parce qu'il y a urgence, parce que les enjeux sont de taille. Ils concernent l'emploi, la compétitivité, la souveraineté industrielle, mais aussi la transition écologique. Le chef de l'État veut envoyer un signal fort sur un marché à l'arrêt. Les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 89% au mois d'avril. Emmanuel Macron devrait donc donner un sérieux coup de pouce au bonus écologique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables et encourager dans le même temps le déploiement d'infrastructures de recharge rapide. Car l'électrique est toujours un marché de niche, il ne représente que 7% des ventes depuis le début de l'année. Pour faire revenir les clients dans les concessions, le chef de l'État devrait annoncer une prime à la conversion des vieux diesels pour écouler un stock de 400 000 véhicules thermiques neufs. Mais la contrepartie, c'est un engagement des constructeurs et des équipementiers sur l'investissement et l'emploi en France, alors que Renault doit annoncer en fin de semaine un plan d'économie de 2 milliards d'euros avec de possibles fermetures de sites. L'État laissera Renault adapter son outil de production, assure le ministre de l'économie Bruno Le Maire, quand Édouard Philippe, sur une ligne plus dure, assurait la semaine dernière que le gouvernement serait intransigeant sur la préservation des sites du constructeur automobile en France.
Et avant de détailler son plan de relance pour la filière automobile, Emmanuel Macron doit recevoir ce matin à l'Élysée Jean-Dominique Sénard, le PDG de Renault, 3 jours avant de dévoiler un plan d'économie de 2 milliards d'euros du groupe aux losanges en difficulté. Une centaine de salariés de Renault bloquent le site de Codan en Bretagne, l'un des sites qui serait menacé par les restructurations de la marque aux losanges. L'industrie automobile hexagonale, Renault en tête, n'est évidemment pas la seule à souffrir. Le phénomène est mondial, mais inégale, Louise Baudet.
En Europe, la chute est vertigineuse, moins 76% sur un an, effondrement impossible à rattraper cette année, même en cas de forte reprise. En Chine, en revanche, premier marché automobile mondial, la pandémie s'estompe et les affaires reprennent. La crise n'est donc pas uniforme et elle frappe surtout les constructeurs déjà fragilisés. Ainsi, Renault et son allié Nissan, hier leaders mondiaux, plombés par leur choix stratégique et la cavale de Carlos Ghosn. Le constructeur japonais s'apprête à supprimer 20 000 emplois, soit 15% de ses effectifs. À la clé, des fermetures d'usines que les États s'efforcent d'éviter en garantissant des prêts massifs, plus de 6 milliards envisagés en Italie. Problème, Fiat Chrysler s'apprête à distribuer 5 milliards de dividendes records à ses actionnaires. Même scénario en Allemagne qui hésite à financer une prime à la casse en soutien à BMW, Volkswagen et Daimler. Quant aux Big Three américains, General Motors, Ford et Chrysler, ils sont pour l'heure exclus du plan de relance de 2 900 milliards de dollars, faute de visibilité sur le comportement des consommateurs outre-Atlantique.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Avec le déconfinement et la reprise de l'activité, l'État ne prendra plus en charge intégralement le chômage partiel.
Dès lundi prochain, le 1er juin, les entreprises devront payer 15% du chômage partiel. C'est ce qu'a annoncé le ministère du Travail hier. Les petites et moyennes entreprises, notamment, s'en inquiètent. Près de 8,5 millions de salariés étaient encore placés en avril dernier en activité partielle, ce qui a coûté près de 24 millions d'euros en 3 mois à la collectivité. Enjeu décrypté par Catherine Pétillon.
Toute la question, c'est celle de l'équilibre entre le coût du chômage partiel pour les finances publiques et le risque du chômage tout court. Le gouvernement a finalement choisi d'amorcer une réduction progressive de son aide aux entreprises. Au 1er juin, la prise en charge du chômage partiel par l'État et l'UNEDIC passe de 100 à 85% de l'indemnité versée aux salariés, dans la limite inchangée de 4,5 SMIC. Seuls les secteurs faisant l'objet de restrictions en raison de la crise sanitaire, comme la restauration ou le tourisme, continueront, eux, à bénéficier d'une prise en charge complète. Pour le salarié, en revanche, rien ne change. Pendant l'activité partielle, il reçoit au minimum 84% du salaire net et au minimum le SMIC net. Le dispositif d'activité partielle, le nom officiel, a été massivement utilisé pour éviter les licenciements. En avril, 8,6 millions de salariés ont ainsi été couverts à raison de 2,8 semaines par salarié en moyenne. Et cela essentiellement dans les secteurs du commerce, des services aux entreprises et de la construction. Les organisations patronales militaient pour que l'État ne réduise pas la voilure de son aide. Dans de nombreuses entreprises, la reprise est difficile. Reste la question du coût de la mesure et de l'effet d'aubaine pour certaines entreprises. Cette annonce est donc une première évolution. Par ailleurs, à l'avenir, le dispositif d'activité partielle sera rendu modulable selon les secteurs d'activité.
Et pour aider les jeunes fragilisés par la crise, le secrétaire d'État Gabriel Attal annonce ce matin dans les pages des Échos un plan global pour les jeunes avant l'été. Mais pas question pour autant d'étendre le RSA, le revenu de solidarité active, aux moins de 25 ans. Ce que réclamaient plusieurs associations et syndicats, ce serait se placer dans un esprit de défaite, estime le secrétaire d'État chargé de la jeunesse. Alors que le Ségur de la santé se poursuit aujourd'hui et jusqu'au 15 juillet, Édouard Philippe a promis hier lors de son lancement des hausses de salaires significatives et des investissements massifs dans le secteur hospitalier. La psychiatrie publique, qui est en souffrance, bénéficiera-t-elle de ce plan en faveur de la santé? Trop tôt pour le dire, mais les besoins sont immenses. En Seine-Saint-Denis, par exemple, département particulièrement touché par le coronavirus, les soignants de l'établissement public de santé de Ville-Évrard attendent beaucoup du plan du gouvernement. Aurélie Kiefer.
débrouille et entraide ont jusqu'à présent permis à l'hôpital psychiatrique de Ville-Évrard de surmonter les tensions. Et pourtant, l'établissement a dû se réorganiser dans l'urgence, monter une unité Covid-Psy pour accueillir des patients Covid atteints de troubles psychiatriques et organiser le remplacement des soignants tombés malades faute de masques et de gants. Avec la décrue de l'épidémie, l'unité Covid-Psy n'accueille plus que quelques patients et l'établissement reprend progressivement ses activités habituelles. Mais le respect des mesures barrières alourdit la prise en charge et il y a à nouveau attente prolongée aux urgences. Le psychiatre Laurent Vassal, président de la commission médicale d'établissement.
On avait déjà avant des problèmes de place et des patients qu'on ne pouvait pas accueillir. Pendant la période du Covid, on a tout fait pour améliorer notre dispositif et pour pouvoir accueillir, puisqu'on voulait absolument que les patients ne stationnent pas dans les urgences, puisqu'on savait que c'était un lieu à haute dangerosité contagieuse et épidémique. Après, actuellement, on a effectivement des gros problèmes de place et de chambres, puisqu'on assiste là à la sortie du confinement, à l'apparition, disons, de sémiologie un petit peu particulière, avec quelques tableaux de bouffées délirantes aiguës en rapport avec le confinement, souvent des jeunes. Et puis, on a des situations qu'on essaye de repérer, qui sont des situations de gens qui n'osent pas sortir de chez eux et qui vivent dans la terreur d'une éventuelle contamination.
Alors que les besoins devraient encore augmenter dans les prochains mois, l'hôpital peine à recruter. Pour Laurent Vassal, il est urgent de revaloriser les salaires pour rendre la psychiatrie plus attractive. Il rêve aussi de réformes plus ambitieuses, mais craint que le Ségur de la santé ne laisse une fois de plus la psychiatrie sur la touche.
Et à noter alors que s'ouvrait hier le Ségur de la Santé, les personnels de près de 80 EHPAD du groupe Korian qui ont fait grève pour réclamer une prime et des revalorisations salariales. Ces salariés ont obtenu un bonus de 1500 euros de leur salaire dès le mois de juillet. Alors que l'épidémie de Covid-19 recule en Europe, pour mieux repérer d'ailleurs la propagation du coronavirus en France, l'application de traçage Stop Covid sera disponible dès le week-end prochain si les parlementaires l'approuvent. C'est ce que déclare au Figaro le secrétaire d'État au numérique Cédric O. L'Amérique latine, elle, est en passe de devenir le nouvel épicentre mondial selon l'Organisation mondiale de la santé, avec plus de 500 000 cas diagnostiqués. Le Brésil est le pays le plus touché, suivi du Pérou, et ce, malgré 9 semaines de quarantaine et un confinement décrété très tôt. La correspondance d'Amanda Chaparro à Lima pour France Culture.
Au Pérou, le président Martin Vizcarra a pris rapidement la mesure de l'épidémie. Contrairement à son voisin brésilien, il a imposé très tôt des mesures de confinement drastiques. Dès le 16 mars, le pays se barricade, les frontières sont fermées, les transports interprovinciaux interdits et les Péruviens sommés de rester chez eux. Pourtant, après 9 semaines, le Pérou enregistre 120 000 contaminations et plus de 3 400 morts. Les chiffres des décès pourraient être en réalité 3 fois supérieurs, voire 4 ou 9 fois selon les régions. Pour Ciro Maguigna Vargas, médecin infectiologue et vice-président du Collège médical, cette situation tient avant tout à un système de santé et social extrêmement précaire.
Les gens ont tenu 4 semaines chez eux, mais ensuite la faim et la nécessité les a poussés dehors, en particulier à Lima, car nous sommes une économie de travailleurs informels à 70%. Nous vivons par ailleurs une crise sanitaire qui dure depuis 40 ans. Seul 4% du PIB est consacré à la santé. C'est l'un des taux les plus bas d'Amérique latine. Il manque 11 000 spécialistes, les hôpitaux sont vieux et le taux de lits est très bas par rapport à la taille de la population.
Lueur d'espoir, le pic des contaminations est attendu d'ici quelques jours. Toutefois, le président Vizcarra a déjà pris la décision de prolonger l'isolement social, cette fois jusqu'au 30 juin. Le Pérou est ainsi l'un des pays au monde au confinement le plus étendu.
Amanda Chaparro à Lima pour France Culture. Au Japon, le Premier ministre a levé hier l'état d'urgence dans les dernières régions de l'archipel où il était encore en vigueur, notamment à Tokyo, permettant à la troisième économie du monde de redémarrer tout en appelant à la prudence. À Madrid, les Espagnols ont pu bénéficier eux aussi d'un premier allègement avec la réouverture des terrasses, des cafés, des restaurants et des espaces verts. L'Italie, elle, a franchi une nouvelle étape dans la levée des restrictions avec la réouverture des salles de sport et des piscines, une semaine après celle des restaurants. Aujourd'hui, c'est le site antique de Pompéi qui doit rouvrir. Et puis, j'ajoute qu'en Islande, les discothèques fermées depuis 9 semaines se sont à nouveau électrisées. Hier, l'Islande, premier pays d'Europe à rouvrir ses boîtes de nuit après la Lettonie. Et puis, je ne sais pas si cette chanson est passée hier dans les boîtes de nuit en Islande, mais si je vous fais écouter cela, Guillaume. You can feel it in the streets on a day like this.
Cela vous fait penser à quel procédé musical? L'autotune.
Je sens que vous voulez que je parle de ça.
Eh bien, on ne parlera pas d'autotune, mais d'ajustement automatique d'intonation pour cette chanson Feels Like Summer de Childish Gambino, dont l'album est sorti pendant le confinement le 15 mars dernier. L'ajustement automatique d'intonation, c'est ce qu'il faut dire en bon français selon la commission d'enrichissement de la langue française. Elle ne parle pas non plus de podcast, mais de programme ou émission à la demande, Guillaume.
Vous auriez pu choisir PNL pour l'autotune. Enfin, l'ajustement, comment on dit ?
L'ajustement automatique d'intonation, bon, en bon français.
On va voir dans quelques instants si Frédéric Seiz l'utilise. Vous voulez peut-être donner
quelques
des nouvelles
mots
de la météo ?
Exactement. Le temps de ce mardi 26 mai, toujours ensoleillé. Feels like summer, comme dit Childish Gambino. Il fera 21 degrés au Havre, 23 degrés à Metz, 24 à Lyon, 26 à Paris, à Rennes et à Corté, 28 degrés à Bordeaux et à Toulouse, Guillaume Hermès.
Merci Catherine Dutu.